France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, du lundi au vendredi jusqu'à 11h. Et ce matin, jusqu'où doit-on dire la vérité dans son couple? Jusqu'où préserver son jardin secret, sa chambre à soi, pour parler comme Virginia Woolf? Bref, doit-on vraiment tout se dire dans le couple? Est-on obligé d'évoquer son ex avec sa moitié, évoquer ses secrets de famille, ses maladies, ses blessures psychologiques, ses traumas, ses infidélités, ses fantasmes inavoués? Élément de réponse ce matin avec nos deux expertes. Est-ce que vous vous dites tout dans votre couple? Racontez-nous tout au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en utilisant le bouton réagir sur l'appli Radio France, en nous laissant vos messages. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Cécilia Como.
Bonjour Ali.
Je suis ravie de vous retrouver dans cette émission. Psychanalyste, thérapeute, sexologue clinicienne. Dernier ouvrage paru, J'ai envie, moi non plus, publié chez Albin Michel. Et vous aviez également publié Le couple parfait n'existe pas. Plaisir de retrouver également Sophie Cadalen. Bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, spécialiste du couple, des relations amoureuses et des comportements sexuels. Dernier essai paru chez Philippe Ray, L'aventure du divan. Et on va commencer tout de suite avec Élise, qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Bonjour Élise.
Bonjour Ali.
Bonjour, comment allez-vous?
Très très bien.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette question, jusqu'où doit-on dire la vérité dans son couple?
Ah ben, ne jamais dire la vérité, ça c'est vraiment un conseil pour la jeunesse, parce que j'ai un peu d'expérience, on va dire. Ne jamais dire la vérité, ça c'est le piège de la candeur dangereuse. Non, il faut garder une vie privée. Et puis, il faut épargner l'autre. Je pense qu'il faut, épargner l'autre avant tout. Et puis, c'est un plaisir narcissique de dire la vérité à tout prix. Enfin, je pense que je l'ai commis, malheureusement.
Ah, expliquez-nous, Élise.
Ah ben, je regrette, parce que maintenant, je suis célibataire, et tant pis pour moi. Hein, parce que je disais tout le temps la vérité. Parce que c'est mon mantra, la franchise. Ouais. Et c'est une catastrophe. Non, mais ça, c'est un conseil pour les jeunes, parce que tous les jeunes qui me demandent conseil, je leur dis, surtout, tu ne dis rien. Si c'est une aventure, c'est pas grave, ça fait du bien. Et on efface.
Et Élise, vous disiez tout dans tous les pans de la vie, que ce soit la vie intime, la vie quotidienne avec votre moitié.
Oui, bon après la vie politique, etc., ah oui. C'est autre chose. Mais pour la vie privée, ah oui, non, il faut. En fait, je suis partisane du pieux mensonge. Enfin, ça n'est pas un mensonge que de ne pas dire la vérité. Mais si on vous questionne, dis non, mais. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne à la jeunesse.
Merci beaucoup, Élise, pour cette première intervention. Voilà. On va vous garder encore un petit peu. Au commencement du couple, il y a l'idée que l'on se fait du couple parfait. Et parmi les idées les plus tenaces, le mythe de la transparence. La transparence qui serait l'un des piliers fondamentaux d'un couple parfait, Cécilia Como.
Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup inspirée sur le premier livre. Et cette idée-là, en fait, elle ne tombe pas du tout du ciel. Et elle est le produit de trois courants historiques assez récents quand même. On a le premier qui est l'idéologie romantique. On va avoir la psychologie moderne et l'authenticité, la valeur d'authenticité ou la morale d'authenticité. Parce qu'avant ces trois courants, quand vous vouliez raconter en fait ce qui vous arrive, il y avait des confesseurs, il y avait des amis, il y avait ce qu'on a beaucoup oublié, des journaux intimes pour les gens qui pouvaient écrire et lire, et ça constituait comme ça un petit peu le recueil de la vérité. Et au 19e siècle, alors, on a un basculement avec l'idéal romantique qui est le vrai amour. Et le vrai amour, c'est la fusion des âmes. Alors, à ce moment-là, arrive l'idée que le secret commence à être perçu comme une trahison potentielle. Et puis, au 20e siècle, arrive, j'allais dire, bien évidemment, la psychanalyse et la psychologie qui vont venir renforcer l'idée que mettre en mots, révéler, dévoiler, c'est le signe d'une bonne santé psychique. Alors à ce moment-là, le non-dit devient suspect. Et puis, on va en rajouter une couche, si je peux dire, dans les années 70, avec cette notion d'authenticité comme une valeur cardinale. Et dans ce cadre, le garder pour soi va être très facilement interprété comme une forme de duplicité. Et la transparence va devenir une preuve d'intégrité et on va vite confondre la loyauté relationnelle et la nudité psychique.
Sophie Cadalani.
Oui, et une notion qu'a apporté aussi la psychanalyse, un terme que vous connaissez, c'est Cécilia, le midir.
C'est quoi ?
Le midir, ça veut dire que on dit, et d'ailleurs c'est une cure par la parole, une analyse, et on dit pour s'apercevoir qu'on ne peut pas dire tout. Et que le dire peut-être essentiel va se glisser entre nos dits, d'où le mi-dire. Donc on ne peut pas tout dire, jamais. Donc c'est le paradoxe, effectivement, ça encourage le dire, et puis en même temps ça révèle qu'on ne peut pas tout dire. Mmh. Et ensuite se pose la question, effectivement, est-ce qu'on doit tout dire ? Mmh. Alors autre chose qui, je pense, a augmenté, parce que c'est quelque chose de très actuel, cette notion de transparence, c'est aussi notre vie réseautée aujourd'hui, notre vie exposée, notre communication très facile, immédiate, permanente, qui obligerait effectivement à dire toujours tout ce qui se passe au moment où ça se fait, et qui donne de véritables catastrophes.
Élise, qu'est-ce qui vous poussait à tout dire ?
Bon, je pense que c'était la candeur. D'autre part, mon ex-mari qui était pour la franchise, la tolérance, et même, oui, tu peux avoir des aventures, ça m'est égal, et ça, c'est une catastrophe. J'aurais dû dire oui, oui, bien sûr, et puis... Et puis ne rien dire, et puis en avoir si ça me regardait à la limite. Mais je pense qu'on doit absolument garder une intimité personnelle dans un couple, et c'est valable aussi dans un grand groupe d'amis. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il y avait la première vertu, c'était la franchise, et non, pas du tout. C'est le respect de l'autre exclut la franchise, parce que sinon... on dévaste tout.
Oui, et Élise, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, j'en prendrai un peu, vous disiez, voilà, il ne faut pas dire la vérité. Si, on peut dire la vérité, mais pas toute la vérité. Pas toutes les vérités, parce que la vérité, avec sa majuscule, ça n'existe pas non plus. On part toujours de son endroit à soi, très subjectif, mais ça s'adresse à quelqu'un et dans un contexte. Et je dirais que la parole, elle doit toujours se compter par trois. D'où je parle, à qui je m'adresse et dans quel contexte. Donc tout ne peut pas être dit. Effectivement, cet encouragement très répandu, on peut tous dire nos infidélités, on est très libérés. Alors ça, c'est très intellectuel, hein. Sauf que la réalité viscérale est beaucoup plus difficile à vivre, beaucoup est extrêmement différente. Et puis se méfier de cet encouragement à la liberté, à l'échange, à la possibilité d'eux, qui en fait peut déguiser une envie de contrôle.
Rappelons, Cécilia Como, rappelons un préalable. L'honnêteté, c'est tout de même une qualité précieuse pour la pérennité du couple.
Alors, dans la clinique des couples, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est vraiment extrêmement important, c'est pas tant la transparence et la vérité, mais la confiance. Et comme on suppose très souvent et très vite que la confiance égale la vérité, on mélange un peu le concept et on a l'impression que vérité, en fait on va mettre tout dans le même sac, vérité, honnêteté, confiance, alors que la confiance, elle se bâtit sur la prévisibilité et sur la fiabilité émotionnelle. Donc la question, c'est qu'est-ce qui rend quelqu'un digne de confiance ? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit tout ou quelqu'un qui protège l'autre ? C'est une vraie question.
Vous êtes d'accord avec ce que nous dit le dramaturge Wajdi Mouahad ? Je le cite, « Aimer et mentir vont souvent pas à pas, toujours l'un avec l'autre, claudiquant l'un pour l'autre. »
C'est très joli. Ah, je suis tout à fait d'accord.
J'en étais sûre, Sophie Cadalène.
Oui. Justement, on parlait d'honnêteté, il y a des mensonges qui, d'une certaine façon, ça peut paraître étrange, mais justement nourrissent cette honnêteté. D'abord, honnêteté vis-à-vis de soi. Par exemple, une confidence, quelque chose, on en reparlera, mais voilà, l'infidélité. Il y a quelquefois la dire, c'est donner le paquet à l'autre, il s'en débrouille. Or, l'honnêteté, ça va être, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai fait ça ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Est-ce que ça concerne notre couple ? Est-ce que ça me concerne moi ? Est-ce que l'autre a être inclus dans cette histoire ? Quels dégâts ça va provoquer ? Est-ce que j'ai fait ça pour justement le provoquer ? L'autre, dans ce cas-là, effectivement, peut-être dire à son importance, ou est-ce que c'est une histoire qui me regarde moi et que je dois assumer seule, dont je dois me débrouiller ?
De nombreux couples pensent, à l'inverse, que se taire, occulter certains aspects de sa vie, c'est trahir son engagement. C'est un peu votre cas, Crapette. Bonjour, Crapette.
Bonjour.
Vous appelez de la Drôme.
Oui.
Vous, par exemple, vous ne concevez pas que l'on ne se dise pas tout dans le couple.
Après, je pense qu'il y a des façons de le dire. On n'est pas obligé d'étaler dans des... Enfin, je sais pas, on n'est pas là pour massacrer les autres, hein, de toute façon. Mais moi, je pense que si on peut pas dire qu'on est d'accord, pas d'accord, qu'on a envie de ça, pas envie de ça, je trouve que c'est pas normal, quoi, c'est tout.
Et pour vous, ce n'est pas un couple de ne pas pouvoir tout se dire ?
Voilà, bah moi j'ai vécu ça, il fallait toujours réfléchir à comment dire les choses, et en fait on se massacre nous. Nous-mêmes.
Oui, là vous énoncez quelque chose de très important. On ne doit pas céder sur sa position à soi, de ce que l'on pense, de sujet, pourrait-on dire en psychanalyse, ne pas céder sur son désir aussi, et même si on sait quelquefois que l'autre n'est pas d'accord avec ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on va faire, si c'est être malhonnête avec soi, que de faire semblant, de composer, de se tordre dans tous les sens pour le ménager, ça ne va pas non plus. Cette malhonnêteté à soi-même va nous rendre aussi malhonnêtes dans le couple.
Cécilia Comeau.
Parce que je pense, par rapport à ce que dit l'auditrice, c'est exactement pour ça que la transparence a pris énormément d'importance. C'est parce que aussi, avant, dans les couples, justement, il y avait beaucoup de silence, il y avait beaucoup de non-dits, et c'était plus délétère que salvateur. Mais je pense qu'il y a, d'abord, ce qui est vrai, c'est que l'honnêteté, je pense qu'il faut rappeler qu'elle ne va pas sans filtre. Moi, je considère que la parole non filtrée est comme même extrêmement dangereuse, et par filtre au moins deux, la bienveillance et l'empathie, donc qui permet effectivement de savoir de mesurer ce que je vais dire, parce que je le dis pas à un mur, je le dis à quelqu'un qui est un sujet avec des émotions. Et puis moi je fais quand même une différence importante entre mentir et se taire. Mentir, c'est altérer la réalité. C'est fabriquer une fausse réalité. Se taire, ça peut être filtrer ce qui fragilise, se protéger soi-même ou protéger l'autre. Donc c'est, et dans l'infidélité, par exemple, ce qui est assez typique, c'est qu'on va retrouver les deux. C'est-à-dire qu'on va retrouver quelqu'un qui fabrique une réalité fausse, mais qui aussi protège, alors soit soi, soit l'autre. Donc c'est aussi le mensonge, il y a toute une palette.
On va y revenir.
Sur le mensonge.
On va revenir dans un instant sur tous ces mensonges qui nuisent au couple. Et merci, Crapet, de nous avoir appelés. On se retrouve juste après avoir écouté Niagara. Ça va vous rappeler des souvenirs, Sophie Cadel, Cécilia Comeau. Pendant que les champs brûlent, une chanson de 1990, 10h18 sur France Inter.
Encore trop doux dans l'herbe écrasée à compter.
Bulgare a interprété pendant que les champs brûlent.
France Inter.
Et pour la nourriture, vous...
Ouais, alors non, simplement, je me disais un truc, on n'est pas forcément obligé de parler.
Grand bien vous fasse.
Vous savez, on n'est pas obligé de parler.
Ben voilà, vous avouerez, ça m'arrange.
Ali Rebbi.
Jusqu'où doit-on dire la vérité dans son couple? C'est la question que je vous pose ce matin au 01 45 24 7000, au standard et sur WhatsApp. Pour vous répondre, la psychanalyste et sexologue clinicienne Cécilia Como et la psychanalyste Sophie Cadalen. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'une transparence absolue dans le couple, une transparence absolue qui peut se révéler délétère. Imaginez que vous disiez à votre moitié « t'es vraiment pas top avec ces 10 kilos en trop » ou « ta blanquette ouais. » tout simplement dégueulasse, ou tu m'as fait honte hier lors du dîner chez les beaux-parents, tu passes vraiment pour une conne, excusez-moi, ou pour un con. Une forme de transparence, de non-censure dans ce qui est disciple, ça peut être assimilé à une forme de violence psychologique quand il s'agit de phrases vraies, entre guillemets, oui. répétées pour rabaisser l'autre consciemment ou inconsciemment,
oui,
Sophie
oui.
Cadalen.
Ah bah, tout à fait, sous couvert justement cet argument. Ah, moi je suis honnête, moi je suis franche ou franc et je vais te dire ce que je pense. Oui, c'est massacrer l'autre. Et c'est d'une certaine manière le diminuer, l'assujettir, le mettre bien en bas de soi. J'ai un exemple, j'en parle dans mon livre, d'une patiente qui m'avait raconté que, voilà, elle avait dit à son mari, très 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 benoîtement, très très, je dirais presque fraîchement, « Non mais tu ne m'avais jamais fait jouir, mon amant oui, c'est atroce ». C'est atroce. Quel besoin de... C'est vraiment la castration au sens le plus cruel du terme.
Et c'est vrai qu'il existe des vérités qui ont pour but de détruire l'autre. Oui. Certains éprouvent un plaisir pervers à asséner des vérités qui font mal, Cécilia Como.
Ben c'est là où, encore une fois, à mon sens, la question essentielle quand on s'apprête à ouvrir la bouche pour dire une, entre guillemets, vérité, c'est quelle est mon intention. Parce que il y a diverses intentions sur pourquoi on dit la vérité. On peut dire effectivement la vérité pour réparer un lien, ça va être douloureux mais ça va être structurant. On peut dire la vérité parce qu'on veut décharger sur l'autre psychiquement ce qui nous pèse. Et évidemment, on peut dire sa vérité, en tout cas pas une vérité, pour manipuler l'autre. Mmh. Et c'est pour ça que l'intention, elle est fondamentale, au moins d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre essaye de faire ou de dire avec ça. Et aussi, ben derrière, je reviens, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a fait sauter tous les filtres pour s'adresser à quelqu'un dont, par ailleurs, il ou elle peut dire qu'elle en est très amoureuse, qu'elle est attentive à son bien-être, et alors même qu'il n'y a aucun filtre de protection dans la parole. Moi, j'ai souvent dit, parce que les couples, et surtout les jeunes couples, ont tendance à penser que la solidité, c'est la transparence, c'est le partage. Parce qu'ils ont peut-être eu des couples modèles parentaux, où ça ne parlait pas énormément, etc. Et ça m'a toujours interpellée, et honnêtement, je les ai toujours mis en garde, en disant, écoutez, le couple, c'est un binôme absolument différent de tous les autres binômes que vous pouvez constituer. Il est unique. Donc, si vous distribuez la parole dans ce couple comme vous la distribueriez avec vos amis ou autres, y a erreur parce que c'est pas la même entité, en fait. On n'est pas juste deux. C'est deux très particuliers. Parce que derrière, quand même, faut le dire, ce que vous allez chercher à sauver, parce que c'est quand même ce que beaucoup de couples cherchent à sauver, c'est le désir. Et donc le désir, on en revient à, il ne se nourrit pas de transparence absolue. Il se nourrit d'honnêteté, de sincérité, mais il ne se nourrit pas de transparence, et encore moins quand les filtres ont sauté. Quand vous parlez, quand vous êtes, comment dire, pas très sympathique, on va le dire comme ça, avec quelqu'un, il ne faut pas s'étonner que cette personne ensuite aura quelques réticences à vous désirer.
Et nous accueillons Éloane. Bonjour Éloane.
Bonjour.
D'où appelez-vous Éloane ?
De Rennes.
Alors, quelle est votre position sur notre question du jour ? Jusqu'où doit-on dire la vérité dans son couple ?
Alors, moi, je vois ça comme un triptyque entre la sincérité, la bienveillance et le respect. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour dire la vérité, il faut d'abord savoir quelle est sa vérité et être au clair, aligné sur cette vérité par rapport à soi, mm-hmm. pour pouvoir dire sa vérité à l'autre. Mais mm-hmm. il faut le faire en toute bienveillance et dans le respect. Mm-hmm.
Cécile Acomo.
Bah oui, c'est exactement ça. C'est que quand vous posez des filtres, les trois qui viennent d'être énoncés, la bienveillance, le respect et la sincérité, forcément votre parole sera totalement différente. Est-ce que vous allez être totalement transparent? Bah non, parce que quand on est bienveillant, on va s'arranger pour éviter de blesser l'autre. Donc, y a peut-être effectivement des choses qu'on ne va pas dire, et c'est bien.
Oui, puis j'aime bien cette notion de triptyque, parce qu'on en revient à cette histoire de compter jusqu'à trois. C'est pas le vrai, le faux, c'est pas je dis vrai ou je mens.
Binaire.
Voilà, c'est pas binaire. C'est le problème d'ailleurs des débats aujourd'hui, c'est très binaire, très souvent, donc on ne discute pas beaucoup. Et là, ça met de la nuance. Le triptyque, voilà, ça permet de circuler. C'est encore une fois, qu'est-ce que je veux raconter en disant cela, à qui je m'adresse, dans quel contexte et pour quel but aussi.
Rappelez-nous, Éloane, votre triptyque, on va tous noter.
Sincérité, respect et bienveillance, et c'est quelque chose, en effet, on doit circuler entre les trois, on ne peut jamais atteindre les trois en même temps, c'est des valeurs qui sont tout le temps en tension, et c'est pour ça que c'est important de tendre le plus possible vers les trois, et parfois on navigue et on fait comme on peut, et par l'expérience, on arrive à quelque chose de sain.
Merci beaucoup Éloane de nous avoir appelé. Alors revenons à cette question du mensonge, hein. Le grand psychologue américain Paul Ekman nous dit que mentir est une caractéristique centrale de l'existence. Celui ou celle qui affirme ne jamais mentir ment forcément, et a fortiori dans son couple. Est-ce que parfois c'est pas plus simple de mentir plutôt que de dire la vérité? L'écrivain Henning Mankell écrit dans Les chaussures italiennes: la vérité est parfois très difficile à manier, le mensonge plus simple. Vous me paraissez dubitatif, Cécilia Como. Vous êtes peut-être plus convaincu, Sophie Cadalen.
Déjà, non, c'est, je pense à cette expression de Lacan qui dit: est-ce que je dis vrai quand je dis que je mens? Déjà, ça complique un peu les choses. Voilà, je vais, en toute franchise, je te dis, je vais mentir. Ouais, elle est où la vérité et le mensonge? Donc, je trouve que c'est le terme de mensonge qui est un petit peu compliqué, qui est trop massif. Je préfère le pas tout dire. Je préfère
le mi-dire.
L'auditeur précédent qui parlait de naviguer, l'ajustement. Oui, il y a des choses qu'on va pas dire, il y a des choses qu'on va peut-être un peu arranger. Mais encore une fois, si c'est dans le souci de l'autre, alors non pas dans le souci de satisfaire l'autre, toujours, parce que là, effectivement, on se renie soi, mais si c'est dans l'idée de ménager l'autre, de aussi ressentir qu'est-ce que je peux lui confier qui ne va pas l'encombrer. Donc c'est pas tant mentir, c'est vraiment, oui, le tri dans le dire qui fait que, oui, encore une fois, c'est de ne pas l'encombrer, l'autre, de choses qu'il ne pourrait pas gérer.
Cécilia Comeau.
Je rebondis sur une des citations que vous avez données. Il y a deux raisons pour lesquelles je pense qu'on ne peut pas ne pas mentir. La première, c'est que les gens qui prétendent ne pas mentir, très souvent, ne sont pas exempts de se mentir à eux-mêmes.
En général,
donc,
oui.
on passe tous par là. Ça nous protège aussi, hein, de nous mentir à nous-mêmes. On en a besoin, parfois. Donc, je vois pas trop comment on pourrait penser qu'on peut se mentir à soi, mais pas aux autres. Et puis, la deuxième chose, c'est que les études du mensonge, pour le coup, sont assez unanimes pour dire que nous tous mentons en moyenne plus d'une fois par jour, alors disons à peu près une fois par jour, et ça peut aller jusqu'à 24 fois par jour. Et là, on ne parle pas de menteurs pathologiques, hein. On parle de gens qui vont arranger, encore une fois, la réalité à longueur de temps, parce que, effectivement, c'est plus confortable. Donc, de toute façon, je défie quelqu'un de ne pas mentir dans une journée. Par exemple, est-ce que le plat que j'ai fait est bon? Oui, super. Est-ce que tu peux m'aider pour déménager? Ah, écoute, c'est dommage, mais là, justement, c'est le week-end où je suis pas là, etc., etc. Donc, il y a une fonction qui peut être très intéressante dans le mensonge.
Sophie Cadalen.
D'ailleurs, ils ne sont pas rares, ceux qui nous disent avec beaucoup de fierté, au fond, de moi, je suis comme ça, moi, je dis des choses, sont souvent des gens très désagréables. Et ils nous disent des choses auxquelles on aurait envie de leur répondre si on ose être aussi franc qu'eux. Mais je t'ai rien demandé.
Oui, puis moi je me demande toujours, mais pourquoi cette personne n'a aucun filtre?
Oui.
D'où ça vient? Oui. Son rapport aux autres est quand même très particulier.
Alors dans son livre Le mensonge dans le couple, la psychologue Lisa Le Tessier relève plusieurs types de mensonges. Le mensonge par omission, sans doute la forme la plus courante dans le couple. La simulation de l'oubli, un mensonge bien commode. On retrouve également la falsification, hein, c'est inventer des faits pour dissimuler la vérité. Puis il y a un dernier mensonge un peu tordu, le mensonge par embrouillage infraverbal. Ça veut dire que dans les faits, je dis la vérité, mais la manière de le dire signifie l'inverse. Alors évidemment, il y a des mensonges plus ou moins graves que les autres. Et puis le mensonge peut avoir également des vertus protectrices. C'est ce qu'on appelle le mensonge altruiste. J'omets de te dire quelque chose pour ne pas te faire de mal. Je te dis que je suis allé faire du sport alors que j'étais à un rendez-vous médical qui a révélé un cancer et je ne veux pas t'inquiéter. Sur ces mensonges altruistes qui sont parfois nécessaires dans le couple, Sophie Cadavène.
C'est peut-être s'accorder son cheminement à soi. Vous parlez effectivement de rendez-vous médical, avec peut-être le soupçon de quelque chose très grave qui va bouleverser notre vie de couple, et peut-être qu'on a besoin de cheminer soi, d'y aller pas à pas, de prendre la mesure de ce qui se passe, avant de se demander « et comment j'inclus l'autre dans cette aventure qui va être la nôtre, au fond, parce qu'on va le vivre ensemble ?» Et par rapport à la définition que vous donniez de cette psychologue, mensonge par omission et oubli, je ne suis pas d'accord, parce que du coup, tout fait mensonge. Encore une fois, c'est pas la peine de tout dire. Et l'oubli, c'est aussi très salvateur quelquefois. On le dit pas parce qu'on n'y pense pas. Et pourquoi on devrait remettre ça aussi dans la carcelle de l'autre? Donc, traiter ça de mensonge, ça nous ramène encore une fois à cette notion de vérité, de transparence. Non, tout n'est pas mensonge.
Cécilia Coumont.
Oui, puis c'est cette notion. Alors c'est vrai que surtout dans l'infidélité, il y a encore c'est là un peu où se croisent vraiment mentir, donc fabriquer une réalité fausse et se taire. C'est pas la même chose pour les gens qui c'est souvent la question. Hein, est-ce que je dois dire que j'ai une relation? Encore une fois, il y a une question assez assez essentielle. C'est pourquoi souhaitez-vous que l'autre le sache. Est-ce que c'est pour rétablir une réalité commune, une envie de rompre, modifier le lien, rééquilibrer les choses, ou est-ce que c'est pour alléger votre culpabilité? Donc, en fait, ça revient à dire, est-ce que je parle pour que l'autre puisse choisir en fonction de la réalité que je lui amène? Et ça, pour moi, c'est une forme de responsabilité. Ou est-ce que je parle pour ne plus être seule dans ma culpabilité? Et là, c'est une histoire de décharge. Moi, je dis souvent, ce qui vous pèse aujourd'hui, mesurez bien si l'idée de le dire est sur la décharge, que ce qui vous pèse à vous, vous allez vous alléger, vous, et vous allez alourdir l'autre. Donc c'est quand même quelque chose qui se réfléchit.
Et pour pousser plus avant dans justement ces aveux d'infidélité, il y a souvent cette réclamation, vous devez beaucoup l'entendre, Cécile, avec vos couples, de l'autre qui a appris qu'il avait été trompé, qu'on lui dise tout. Celui qui a trompé, justement, lui dise tu me dis ta trahison, alors maintenant tu vas tout me raconter de cette histoire, de cette trahison. Et c'est absolument terrible. C'est-à-dire, c'est charger l'autre d'images, de contextes, de situations qu'on a vécues dans une espèce d'ignorance, effectivement, de ce qui se passait, qui peut-être n'entachait pas ce qui se passait, ce qu'on vivait réellement. Et c'est charger l'autre de tout un scénario, de spéculation, et c'est pas l'aider. Et c'est en plus lui créer une histoire qui est souvent pas celle que celui qui a trompé a vécu.
Et nous accueillons Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors qu'avez-vous vécu du point de vue de notre thématique du jour consacrée à la vérité et aux mensonges au sein du couple?
Alors moi j'étais dans une relation, enfin en couple pendant 35 ans avec une personne qui avait besoin de tout savoir. Alors moi je suis tombée un petit peu dans le piège parce que j'avais l'impression aussi que moi ça me rassurait, mais j'en étais arrivée à même quand je sortais de ma séance chez le psychologue de faire des comptes rendus. Et donc ça m'a beaucoup pesé. Alors ça s'est pas bien fini, hein, ça s'est fini par un divorce, mais je me rends compte que c'était pour lui, je pense, une manière de contrôler, de peut-être aussi que ça le rassurait. Voilà, mais c'était en fait extrêmement pesant parce que j'en étais arrivée même quand je travaillais à prendre des après-midi de RTT ou de congé. Je ne disais rien, puis je profitais de mon après-midi pour avoir un moment à moi, quoi. Vraiment à moi.
Et c'était donc une exigence de vérité dans tous les pans de votre vie, Véronique?
C'est ça. Même ce que je votais, vraiment, il supportait pas que je n'ai pas envie de lui parler, en fait. C'était pour lui... je sais pas, un manque de confiance, je ne sais pas exactement, mais en fait, il ne supportait pas que je n'ai pas envie de parler, de m'exprimer. Enfin, pour lui, c'était pas concevable. Ouais.
Quel effet a eu cette transparence absolue sur vous, sur votre psychisme, votre psychologie?
J'avoue que quand j'étais dans le mouvement, ça me paraissait normal. Mais avec le recul, maintenant que je suis divorcée et que bon là j'ai un suivi psychologique, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de ma liberté. Et j'ai surtout l'impression qu'il ne me faisait pas confiance.
Cécilia, comment ?
Oui, alors bonjour Véronique. Bonjour. Non, je pense que là on n'est plus du tout dans l'histoire de la vérité ni de la confiance. On est dans la surveillance et le contrôle masqué. Parce que vous savez, il y a le contrôle coercitif qui est assez clair parce qu'il se voit. On reçoit des ordres clairement et des injonctions. Bon, là c'est un peu un mix. Parce que finalement, vouloir savoir, c'est une injonction. C'est quand même c'est quand même une relation que les thérapeutes de couple nommeraient comme très toxique, parce qu'en fait, il y a une invasion de votre appareil psychique. On vous demande de vous déposséder complètement de qui vous êtes pour que l'autre puisse prendre les commandes de ce que vous êtes et qui vous êtes. On vous fait un peu passer du statut de sujet qui a une liberté, une autonomie et une indépendance psychique au statut d'objet qui doit rendre des comptes.
Et Sophie Cadalène.
J'avais l'impression de jamais être dans le bien. Vous savez, j'avais toujours l'impression de devoir m'ajuster, de devoir corriger ma façon d'être.
Ben c'est ça le contrôle.
Bon, ça a été assez destructeur quand même. Et j'ai perdu totalement confiance en moi, en fait.
Et puis d'être sur le qui-vive en permanence, Véronique.
C'est ça, tout à fait. Et sur le qui-vive constamment.
Puis Véronique, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est ça l'effet absolument terrible, c'est qu'on perd toute confiance en soi. Cet apparent manque de confiance de l'autre fait qu'on n'a plus confiance en soi. Sauf que la réalité, c'est que c'est l'autre qui n'a pas du tout confiance en lui-même et qui est donc tout à fait incapable de faire confiance en l'autre.
Véronique, restez avec nous parce que nous avons le témoignage de Lucie qui va dans votre sens. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bienvenue. Vous appelez d'où Lucie ?
J'appelle de Lyon.
Alors, le témoignage de Véronique fait peut-être écho à votre propre histoire ?
Oui, bien sûr. C'est ces histoires affreuses où on ne contrôle rien et où on est contrôlé.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Moi, c'est un journal intime que je tenais depuis des années, que je cachais sans le mettre dans un coffre-fort, mais que j'avais confiance dans le fait qu'il n'allait pas fouiller. Or, il a fouillé, il a lu tout, c'est-à-dire ces histoires où vous savez vous livrez comme à vous-même, journal intime, c'est ça. Et il l'a lu tous les jours pendant des années sans rien me dire. Et jusqu'à ce que je le découvre parce que il m'a parlé de quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir, qu'il n'avait pas lu le journal. Et ça a été assez terrible et très dévastateur psychologiquement pour moi parce que c'est ce que j'appelle un viol psychologique, ça.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, vraiment, Lucie. J'ai l'impression, ce que vous nous racontez, qu'il s'agit d'un viol psychique.
Voilà, c'est ça. Et cette impression que j'avais quand je rentrais à la maison, ce regard... ça me faisait penser au film d'Hitchcock, vous savez, ces atmosphères où vous vous dites mais il y a quelque chose et vous êtes incapable de saisir ce qui est en train de vous arriver. Voilà, donc je voulais témoigner parce que là on n'est pas dans les violences physiques, mais on est dans quelque chose de totalement destructeur parce que tout ce que vous confiez, confiez à vous-même.
Oui, Véronique, allez-y.
Oui, si je peux me permettre, moi, j'étais pas dans une relation. Enfin, je vivais pas ma relation comme nocive. Vous savez, j'avais l'impression qu'on était bien, que c'était normal et que c'était bien. C'est maintenant avec le recul, je me dis bon, il y avait quand même des choses pas tout à fait normales. Mais j'étais pas à l'époque dans une relation où on se confrontait, etc. Quoi. J'avais l'impression d'être dans une relation saine et correcte. Enfin, voilà.
Véronique Cadalène. Pardonnez-moi. Sophie Cadalène.
Et donc, Véronique, oui, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la perversion. C'est que l'autre arrive à vous convaincre que c'est comme ça que ça fonctionne, que c'est tout à fait normal. Comme vous dites, Véronique, vous n'aviez pas l'impression d'être dans une relation problématique, en tout cas. Mais là, oui, Il y a violence dans le fait, effectivement, d'aller chercher le journal intime, en cachette, de fouiller, de remettre en place. Et vous parliez de viol psychologique, ça fait écho, effectivement, à cette chambre à soi. On a toujours une chambre à soi,
plus ou moins vaste,
de Virginia Woolf. On a toujours un espace de soi, finalement, impénétrable, sauf à ce que l'autre le force. Et là, effectivement, on est dans un sentiment de violation. Et la violation psychique est absolument terrible aussi.
Cécilia Como ?
Oui, dans leurs deux témoignages, là, ce qu'on voit, c'est que les deux auditrices ont eu un partenaire qui cherchait en fait à prendre possession d'elle entièrement comme un objet qui est à moi. Et là où je trouve qu'effectivement le lien sur le viol psychique est évident, c'est qu'il y a une emprise et c'est une matérialisation du pouvoir en fait. C'est pour avoir du pouvoir que l'autre s'empare en fait de la psyché. D'ailleurs, les gens qui ont été longtemps en relation avec des gens qui exerçaient ce type d'emprise, ce type de contrôle, souffrent, et ça c'est, comment dire, c'est largement étudié, souffrent d'effets, les mêmes effets que ceux que le stress post-traumatique. Mmh. L'hypervigilance, la peur, la dépossession de ses idées, et surtout aussi très souvent une boussole interne qui est complètement cassée. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un, vous en pensez quoi, ça devient je ne sais pas.
Oui,
en fait.
Oui, et cette histoire de possession, c'est, je crois, ce qui participe justement des premières relations, de leur balbutiement, de leurs excès d'une certaine manière, mais tout à fait, je veux dire, romantique. Vous parliez de romantisme tout à l'heure, mais on veut se posséder. Donc on pense que ça en passe par tout dire. Voilà, on va tout dire de soi, on va tout dire de ce qu'on pense, on va tout dire de ce qu'on a fait. Bon, même si on n'a pas encore fait grand-chose, mais on va tout dire. Et peut-être c'est ce qu'on en apprend dans le meilleur des cas, en grandissant, en maturant. L'altérité. Il y a l'un, il y a l'autre, et on ne va pas se posséder. Au contraire, on va s'ajuster, on va se respecter, on va se préserver, parce que l'autre n'est pas moi.
Merci beaucoup Lucie et Véronique de nous avoir appelés. Dans quelques instants, on reviendra sur l'épineuse question de l'infidélité. N'hésitez pas à partager votre expérience au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté l'excellent groupe Tame Impala qui interprète Dracula. 10h44 sur Inter. Tame Impala interprété Dracula.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Jusqu'où doit-on dire la vérité dans son couple ? C'est la question que je vous pose ce matin au 01 45 24 7000, au standard et sur WhatsApp. Pour vous répondre, la psychanalyste et sexologue clinicienne Cécilia Como et la psychanalyste Sophie Cadalen. Alors Cécilia Como, il existe des recherches scientifiques sur le couple qui affirment que les couples les plus satisfaits ne sont pas nécessairement ceux qui se disent tout.
C'est ce que disait Sophie Cadalen, c'est que les couples qui vont bien sont ceux qui vivent avec l'altérité et le respect de l'altérité. Donc, celui qui est en face de moi n'est pas moi, mais n'est pas non plus mon papa ou ma maman à qui je peux me confier, n'est pas non plus quelqu'un qui peut tout entendre, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est peut-on tout se dire, mais peut-on tout entendre ? Oui. Tout entendre, sûrement pas. Donc, les couples qui se... Le mensonge, c'est souvent quelque chose qui fait effraction quand même, encore une fois. Découvrir que la réalité dans laquelle je vis était une fausse réalité, alors que ne pas tout se dire, c'est un moyen aussi de protéger l'autre, premièrement, et secondement, parce que rien ne m'oblige, à ce que je disais au début, à être nu psychiquement et à tout partager avec l'autre.
Sophie Cadalen.
Oui, et je rajouterais, parce que c'est valable aussi pour l'amitié, l'autre, justement dans l'altérité, peut être notre ami. Et un ami, ça se protège aussi, ça se ménage. Un ami, on a tous vécu ça, l'ami qu'on voit embarquer dans une relation, dont on dit « oh là là, c'est encore parti pour un truc qui va mal finir », on peut pas forcément le lui dire. On peut pas. On va le lui dire quand il nous ouvre la petite porte qui permet qu'il entende. Qui nous dit implicitement « Vas-y, maintenant, tu peux glisser tes réserves. » Mais sinon, c'est peut-être ça, aimer l'ami, c'est dire « Bon, bah, vas-y. »
Alors, si je me réfère aux recherches du docteur John Gottman, professeur de psychologie à l'Université de Washington, aux États-Unis, un expert reconnu du couple, ce qui compte, selon ses recherches, c'est la qualité de la communication davantage que la quantité de communication. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression de beaucoup communiquer, et pourtant on communique mal, car on va peut-être blesser, humilier l'autre, sans forcément le vouloir.
Ah oui, j'avais... John Gottman, il travaille avec sa femme.
Avec sa femme,
remettons-la au cœur de l'histoire, parce que c'est un couple, effectivement, qui a énormément travaillé sur le couple. Et ils ont dit des choses qui sont... qui aujourd'hui paraissent alors qui étaient peut-être moins évidentes quand ils l'ont dit eux, mais sont du bon sens. On peut parler beaucoup et finalement ne pas communiquer. Ça veut dire quoi communiquer ? Qu'est-ce que je veux faire passer ? Qu'est-ce qui est important à partager ? Est-ce que ce sont des faits ? Est-ce que ce sont des émotions ? Est-ce que je dois excusez-moi pour l'expression, mais me vider complètement ? Peu importe finalement ce que l'autre est capable de recevoir ou pas. Ça a été effectivement l'objet d'une grande discussion sur mon livre où je m'érigeais un peu en fait contre cette notion que la communication c'est le secret magique pour que tous les couples aillent bien. C'est toujours le problème de la binarité. C'est-à-dire qu'évidemment que pas communiquer c'est un problème, mais tout communiquer c'est un problème aussi. Donc on est toujours, il faut cultiver la nuance, et la nuance c'est de trier en fait ce qu'on partage.
La nuance entre gris clair et gris foncé, cher. Vous êtes très attachée à la nuance, Sophie Cadalen.
Oui, et puis peut-être ce qui fait aussi la qualité, justement, d'un bon échange, une bonne communication dans le couple, c'est la capacité au silence. Quelquefois, voilà, c'est rare des gens avec qui on peut être dans le silence. Et cette phrase qui va émailler souvent ce silence quand on n'est pas très sûr, quand on a peur, quand on veut... À quoi tu penses ? Mais on n'a pas toujours à dire à quoi on pense.
Et nous accueillons Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour tout le monde.
Vous appelez d'où, Lucas ?
Moi, je suis du Calvados.
Très bien. Alors, que vous inspire notre conversation ? Vous êtes partisan de la nuance, de ne pas tout se dire, de rester entre gris clair et gris foncé, ou alors vous êtes plutôt adepte de la transparence absolue ?
Moi, je suis plutôt dans la transparence absolue. J'ai écouté toutes les émissions. En effet, moi, quand je vois avec ma compagne, il y a des choses, des fois, qu'elle va pas forcément me dire tout de suite parce que ça la travaille trop personnellement. Mais à un moment, que ce soit de mon côté ou de son côté, en fait, on finit par se dire les choses. Et au final, moi, c'est une des relations les plus saines que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui, en fait.
Et concernant, Lucas, la question, l'épineuse question de l'infidélité, est-ce que vous iriez, si c'était le cas, à tout révéler à votre moitié? Est-ce que vous accepteriez également que votre moitié vous raconte une infidélité parce que vous êtes dans un espace où tout se dit?
Si la question de l'infidélité vient à se poser, je l'ai déjà eu hein, par le passé, mm-hmm. C'est qu'en fait, il est temps de partir.
Ah oui. Voilà. Sophie Cadalène.
Oui, déjà par rapport à ce que vous dites, Lucas, voilà, vous aussi vous comptez par trois, c'est-à-dire qu'on va se dire les choses, mais au moment opportun. C'est-à-dire que, voilà, on a besoin soi-même de trier, d'élaborer quelque chose sans doute, de cheminer, et après on va se dire les choses. Maintenant, pour l'infidélité, eh bien non, c'est pas forcément le signe que le couple est en phase terminale, si je puis dire. Et là, ça pose la question de... est-ce que c'est à dire absolument? Est-ce que ça concerne l'autre réellement? Est-ce que là aussi, il n'y a pas cette élaboration à faire pour se demander en finale, bon, est-ce que maintenant... j'en fais un sujet avec l'autre, ou est-ce que je le garde pour moi ?
Cécilia Comeau ?
Je pense que, oui, je pense que là, à ma fameuse question, quelle est mon intention ? L'intention était de clore cette histoire. Donc, effectivement, dire la vérité, encore une fois, c'est toujours interroger pourquoi je le dis, qu'est-ce que j'en attends ? Et si j'en attends que finalement ce couple s'arrête et que l'autre comprenne que je ne souhaite plus que ça continue, oui, il y a des déclarations d'infidélité qui clairement sont là pour expliquer la rupture.
Merci beaucoup Lucas de nous avoir appelé. Donc sans être unilatéral et manichéen, en cas d'infidélité, il vaut mieux jouer la carte de la transparence ou mentir. C'est compliqué.
C'est la question, hein, ça revient. Ouais. Je vais répondre encore une fois. Ouais. Ça dépend ce que vous cherchez à faire. Oui. Si vous cherchez à bousculer la réalité et à ce que votre couple se modifie, effectivement, ça peut être un moyen de dire à quelqu'un, tu vois, là, il faut tout modifier ou il faut redistribuer les cartes. Et je dis souvent, c'est le menhir qui tombe au milieu du salon. Vous imaginez un peu les dégâts. Donc, à ce moment-là, oui, si c'est, comme j'ai pu l'entendre, je culpabilise tellement, c'est trop lourd pour moi, là, ça pose question. Parce que qu'est-ce que vous cherchez à faire, en fait, à aller mieux, c'est tout, en fait. Donc, c'est assez individualiste. Est-ce que vous mesurez ce qui va se passer pour l'autre? Là, on n'est pas dans « je veux modifier la dynamique de mon couple et il y a besoin que l'autre sache ça pour que ça change ». C'est autre chose. Donc, dire si on a une intention assez claire.
Oui. Toutes les infidélités n'ont pas à voir avec le couple. On a du mal à entendre ça, mais quelquefois, c'est à voir avec soi, tout simplement. Une envie d'aller voir, peut-être de rechoisir l'autre, peut-être un égarement, peut-être voilà, une pulsion à laquelle qu'on a suivi, et puis peut-être l'occasion effectivement de se poser la question de qu'est-ce que je fais dans cette histoire, mais l'autre n'est pas inclus dans ce questionnement, ou dans cet écart plutôt qu'égard. Et justement,
j'adore quand les psychanalystes font des...
Bon, on en fait plein. Hein. Et justement, les égards, c'est de garder ça pour soi, de porter ça, d'être assez grand pour dire, je fais mon travail, je suis coupable, certes, mais je vais m'en débrouiller tout seul, et l'autre, je l'aime, j'ai absolument pas envie de remettre en question mon couple.
Maureen nous écrit, pensez également à ce que l'autre, à qui vous confiez votre sincérité, peut en faire. Quand tout va bien dans la relation, on ne suspecte pas de comment l'autre peut utiliser vos confidences contre vous-même quand les choses tournent mal. Cécilia Comeau.
Ben oui, c'est là où donner les clés de son territoire psychique, c'est quand même extrêmement dangereux. Est-ce qu'on donnerait comme ça les clés de chez soi à quelqu'un et dire tu peux absolument faire tout ce que tu veux sans lui dire oui mais là il faut faire attention, j'y tiens. Donc non, je pense que je dis souvent notre appareil psychique, ce qu'on pense, c'est un trésor. Est-ce qu'on remet son trésor dans les mains de quelqu'un, sachant que ce quelqu'un pourrait très bien partir avec? Et ce qui arrive souvent, et j'ai des gens qui sont complètement vidés de tout, de l'estime d'eux-mêmes, de tout, parce que l'autre était finalement le gardien du temple. Personne, à part nous-mêmes, doit être le gardien du temple.
Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque la question des fantasmes. Le fantasme, nous dit le Littré, c'est une représentation imaginaire de scènes dans lesquelles un sujet transpose un désir inconscient inconscient, un traumatisme refoulé, une angoisse. Le fantasme, c'est aussi un souhait ardent, difficile à réaliser. Doit-on partager ces fantasmes, les dire, ou faut-il les taire, surtout s'ils sont inavouables, Sophie Cadalen?
Ni devoir les dire, ni devoir les taire. Il y a certains fantasmes qui sont tout à fait partageables, qui vont pimenter notre vie sensuelle, sexuelle. Et puis il y a d'autres, déjà, qui réclament d'être interprétés. Qu'est-ce que ça veut dire, le fantasme que j'ai? Est-ce que ça raconte une réalité difficile à concrétiser? Pas forcément. Peut-être un imaginaire qui me transporte, qui m'excite moi, et qui peut-être terrifierait complètement l'autre, qui peut-être le dégoûterait l'autre. Et c'est là que je crois qu'il faut être très très ferme. Même là, pour le coup, mentir, est-ce que tu as des fantasmes? Quelquefois, il vaut mieux dire non, pas tellement, plutôt que de se croire, de voir livrer des choses dont on sait que l'autre ne va pas les comprendre. En tout cas, va les comprendre à l'aune de ses propres peurs, peut-être.
Pauline nous dit: je suis bouleversée par cette émission car je suis la méchante, la perverse, celle qui a besoin de contrôler l'autre. Mon conjoint m'a quitté il y a 6 mois, j'exigeais la vérité en permanence. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai besoin de soins.
C'est bien, oui, parce que avoir besoin de cette transparence, cette vérité-là, ça veut dire qu'on va pas bien. Ça veut dire qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Si on a besoin de, à ce point, avoir la main croîtant sur l'autre, et Pauline, vous avez dû le vivre, c'est totalement impossible. Et ça ne fait que rendre malheureux.
Au terme de cette émission, l'idée, c'est de ne pas cacher des choses, mais de choisir comment, quand et pourquoi on parle, Cécilia Comeau.
Oui, et puis je vais vous laisser une question dans la tête. Vaut-il mieux vivre heureux dans le mensonge ou malheureux dans la vérité?
Ouh là là.
Moi j'ai répondu.
Vaste question. Juste un mot de conclusion peut-être, Sophie Cadalen?
Je dirais pour tout le monde, méfions-nous de ce mot de transparence qui a beaucoup de vertus apparentes et qui, je trouve, est un vrai piège et qui aplatit tout. Ça laisse pas de place, justement. On en a parlé à la nuance, à l'autre, à soi, à ce qu'on vit à ce moment-là.
Merci beaucoup Sophie Cadalen et Cécilia Comeau d'être venues dans Grand Bien Vous Fasse. Vous pouvez podcaster cette émission et surtout la réécouter à deux sur l'appli Radio France. Demain, comment améliorer la communication avec ses adolescents? Je vous attends nombreux dès 10h au standard et sur WhatsApp au 01, 45 24 7000.